Pierre-François Lassner, Mémoire, première préface. Cher public, ta curiosité a été excitée ainsi au point par mes dernières étourderies. Tu t'es mis avec tant d'ardeur à la piste de la moindre circonstance qui présenta quelque rapport avec moi, qu'il y aurait maintenant plus que de l'ingratitude de ma part à ne pas te satisfaire. Et puis, que gagnerais-je à garder le silence? Il n'en faudrait pas moins que je serve de pâture à ton avidité. Je vois d'ici une nuée de phrénologues, crânologues, physiologistes, anatomistes, que sais-je, tous oiseaux de proie vivant de cadavres, se ruer sur le mien sans lui laisser le temps de se refroidir. J'aurais bien voulu m'éviter cette dernière corvée, mais comment faire? Je ne m'appartiens plus en ce moment. Que sera-ce après ma mort? Aussi, quel curé pour la phrénologie, quel vaste champ de conjectures, que dis-je? La phrénologie n'en est déjà plus aux conjectures. Elle s'appuie sur des données certaines. Elle est enfin aussi avancée dans sa marche que la pathologie du choléra. Mon crâne à la main, je ne doute pas que ces illustres professeurs ne te donnent les détails les plus minutieux, les plus exacts, sur mes goûts, mes passions et même sur les aventures de ma vie, dont ils auront eu connaissance auparavant. Malheureusement, la science n'est pas infaillible. Les phrénologues, comme les autres, sont sujets à des bévues et à des confusions. Témoin le fait suivant, qui est assez plaisant pour trouver place ici. On se souvient encore du procès de Lemoine, assassin de la domestique de Madame Dupuytren et de Gillard, accusé de complicité avec lui. Ce dernier faisait à grand-peine des vers, sans mesure ni raison. Il avait même, je crois, rimé sa défense. Lemoine, excellent cuisinier de son état, avait une haute portée d'esprit. Mais son éducation avait été négligée, il n'avait jamais essayé de faire un seul vers de sa vie. Moi, qui l'ai connu très particulièrement, je puis assurer qu'il en faisait même peu de cas. Il fut condamné à mort et exécuté. Les phrénologues se livrèrent à des observations profondes sur son organisation. Mais leur mémoire peu fidèle sur certains renseignements donnés confondit Lemoine avec Gillard, dont, fort heureusement pour lui, n'avait pas eu le crâne à leur disposition. Et je les ai entendus, moi, en séance publique, affirmer qu'il résultait des découvertes obtenues sur le crâne de Lemoine qu'il devait avoir une forte inclination pour la poésie. Découvertes confirmées, du reste, disait-il, par ses occupations poétiques pendant sa détention. Lemoine poète! Après un résultat aussi satisfaisant, qui pourra m'assurer qu'on ne découvrira pas en moi la bosse de la chimie culinaire et du pudding à la chipolata? Aussi, que ne donnerais-je pas pour pouvoir, en bonne santé bien entendu, assister à ces doctes conférences et, comme crispin médecin, entendre la faculté raisonner sur ma systole et ma diastole? Mais je veux être généreux en mourant, et pour éviter à l'école des dissertations à perte de vue, et peut-être même, oh quoi que je sois très peu susceptible à cet égard, des réflexions impertinentes sur les rapports de ma glande pinéale à mon intelligence, et des prééminences de mon crâne à mes appétits brutaux, je me décide, moi bien vivant, sain de corps et d'esprit, à faire de ma propre main mon autopsie et la dissection de mon cerveau. J'espère qu'en récompense de ce dévouement, ils voudront bien, après mon décès, ne pas éparpiller mes membres dans leurs amphithéâtres et les laisser paisibles dans leurs trous pour être plus à portée de se réunir au grand jour de la résurrection. D'ailleurs, à quoi bon tant de peine et de travaux puisque je vais moi-même, honnête public, de présenter mon squelette au risque de faire encore une fois frémir quelques âmes trop sensibles. Mais que dis-je, ne serais-je déjà plus de ce monde? Ma foi, cher public, je ne saurais trop que te répondre. La question est très embarrassante. Il est certain que je ne suis pas mort au moment où je t'écris. J'avoue même que j'en serais vivement contrarié pour toi qui perdrais beaucoup, car j'ai encore bien des choses à t'apprendre. Mais j'y ai à parier qu'au moment où tu liras cette honnête préface, je serai mort, j'ose pas dire enterré, car je ne suis pas certain d'avoir cet honneur. Quand j'aurai encore 100 ans de vie, je fais trop peu de cas de toi, bon public, pour essayer de me faire valoir à tes yeux. Juge donc si, venant à toi, pour ainsi dire ma tête à la main, je me donnerai la peine de déguiser la vérité. Je n'ai plus d'amour-propre, quoique je sois devenu tout à coup un personnage fort remarquable. Car, qui sait, peut-être aurai-je les bonheurs de salon de Curtius à côté de Fieschi, comme un avocat me l'a donné à entendre avec tant de convenance dans son plaidoyer aussi concis qu'élégant. Je vais donc t'initier dans tous mes secrets, non seulement de ma vie, mais encore de mes sensations et de mes pensées les plus intimes. Si tu t'attendais à trouver dans ce livre des scènes de roman, tu te tromperais. Ma vie, quoique bien pleine, est vide de ces épisodes que l'on retrouve assez le reste sous la plume de nos auteurs. Je te promets qu'une chose, moi, c'est de te faire lire dans mon cœur aussi bien que toi-même et de m'en faire compter tous les battements, toutes les pulsations. Tu peux donc, les yeux fermés, t'abandonner à ma sincérité, quoique je n'ai pas prêté serment. Cette ligne censurée.